émission spéciale sur les ateliers de lecture à voix haute du service culturel de l'Université Rennes 2 avec Rosane Fournier, bonjour.
Bonjour.
Alors tu es comédienne et metteur en scène pour la compagnie de théâtre KF Association et tu as été sollicitée pour animer les ateliers de lecture à voix haute qui se sont déroulés donc fin janvier et début février. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de ces ateliers, sur le travail qui a été fait. Il y a eu deux ateliers de travail. Alors d'abord, quel public était visé pour ce travail, pour ces ateliers?
Le public visé, ce sont les étudiants, le personnel de la faculté et des étudiants aussi en auditeur libre, c'est-à-dire tous les étudiants. Et puis aussi, c'est ouvert, ça reste ouvert dans le cas de places disponibles aux personnes qui sont informées, au courant et qui souhaiteraient, donc je parle des personnes qui ne sont pas inscrites dans la faculté, pouvant éventuellement, dans le cas de places disponibles, participer. Et les ateliers de lecture à voix haute ont démarré par de la lecture à voix haute en octobre. Il y a eu trois sessions, octobre, novembre et décembre, sur le même principe d'ateliers qui sont des modules différents chaque fois, donc des groupes différents chaque fois, de trois jours, de deux heures par jour. Et ceux qui ont eu lieu en janvier et février étaient destiné à la lecture au micro, qui n'est pas du tout la même chose que la lecture à voix haute, qui est plus théâtrale. Mais là, c'était vraiment orienté lecture radiophonique.
La lecture à voix haute, est-ce qu'on pourrait comparer cela à de la comédie, quelque part, puisqu'il s'agit de lire un texte devant du public? Il y a une part de comédie, non?
On fait appel aux artifices ou en tout cas au talent d'acteur parce qu'il y a la projection de la voix, ce qui n'est pas le cas pour la radio. Hein.
D'accord.
Il y a la projection de la voix, il y a une respiration particulière parce que ce sont des textes là choisis spécifiquement comme des textes qui ne sont pas destinés à être dits, mais à être lus en lecture intime. Donc du coup, il y a une part d'interprétation, on s'empare du texte, on s'en fait un ami, mais que ce soit radiophonique ou voix projetée. Hein. On respire le texte différemment quand on le dit de quand on le lit. C'est pas la même respiration. Quand on le lit, on a le temps, on peut revenir en arrière. Quand on le dit, eh bien, faut émettre du son. Donc il y a de la respiration. Et puis quand c'est un texte qui a été écrit pour être lu, il a sa propre, il est unique. Il a sa propre respiration, ses ponctuations. Quand il est dit, pour que ce soit audible pour les personnes qui n'ont pas le texte sous les yeux et compréhensible et qu'ils puissent se projeter eux-mêmes dans la lecture, fabriquer des images et comprendre ce qui se dit, il y a une respiration tout autre. Donc c'est là-dessus en fait qu'on a travaillé. Donc
d'accord.
Il y a une part dans la respiration, ça inclut évidemment une interprétation, mais ce n'est pas une incarnation pour autant, ça reste de la lecture.
D'accord. Est-ce qu'il s'agit, dans la lecture pour la voix radiophonique, de faire en sorte que les personnes voient quelque chose en écoutant le texte ?
Qu'ils puissent se projeter des images, c'est très important, oui. N'ayant pas le texte sous les yeux, les mots sous les yeux, les seuls capteurs, ce sont les oreilles. Les sons produisent des sensations, mais les mots amènent l'auditeur à se fabriquer, à faire appel à sa propre mémoire et fabriquer des images. Et pour ça, il y a du besoin d'un petit laps de temps qui n'est pas le même que quand on a le texte sous les yeux. Voilà. Donc, ça participe d'une technique qui se rapproche de celle de l'acteur.
Alors, quels ont été justement les moyens pour apprendre à ces personnes qui, je suppose, n'avaient jamais fait de lecture auparavant?
La plupart, oui. Ouais.
Quels ont été les moyens que tu as mis en place? Quels étaient les outils, en fin de compte, pour leur permettre de faire ces lectures qu'on va entendre dans quelques minutes?
Je pars toujours du corps. Le texte arrive après, parce que pour pouvoir lire un texte, pour pouvoir être à l'aise avec ne serait-ce que le papier, il faut déjà être à l'aise physiquement. En tout cas, ça c'est mon travail d'actrice qui intervient à ce moment-là. Particulièrement pour la lecture au micro, on est passé par un premier essai qui était celui d'écouter sa voix, ce qui n'est pas une chose évidente, c'est pas forcément agréable, et c'est une surprise, donc qui peut être en effet agréable ou désagréable. Donc il y a eu déjà ce petit essai, ce, qui était important de se rendre compte que la voix qui passe dans le casque n'est pas la même que celle qu'on entend dans la vie de tous les jours. Et puis ensuite, la lecture, eh bien, de réaliser que quand on lit pour les autres, eh bien, on se doit justement de se rendre compte en fait, que le rythme, on ne prend pas le TGV. Voilà, y a un effort qui demande aussi de l'énergie, donc tout ça c'est très physique. Il y a un effort qui doit se produire pour que celui qui écoute, entende, reçoive de façon agréable le texte. Donc on est passé par ça, écouter sa voix, se rendre compte du rythme, des fois on parle trop vite, de aussi la qualité de la prononciation des mots, que ces mots soient gustatifs, que ça passe par la bouche comme quand on mange, ça doit avoir du goût. On est toujours dans le physique. Hein. Je ne parle pas encore du fond, je suis toujours dans la forme, là. Avant même de rentrer dans le sens du texte, on est dans la sensation du texte. Mais tout le travail, en fait, même celui qui a porté sur la lecture à voix haute, proche du théâtre, enfin, projetée, la voix projetée, j'insiste énormément là-dessus, surtout dans une faculté de lettres où on fait appel énormément à l'intellect, et bien volontairement j'axe le travail sur la sensation, sur le ressenti, sur le corps. Ça, c'est le point fort de l'atelier.
Sur ce travail, combien il y a eu de rendez-vous en fin de compte avec les groupes pour travailler ces textes ?
Eh bien, 3 rendez-vous qui se sont suivis, mardi, mercredi, jeudi, à la même heure, 2 heures chacune des séances, de 18h à 20h. Voilà, on s'y est tenu. Avec, en fait, 2 jours où on fait l'expérience du micro, l'expérience de la lecture, on découvre le rythme, on écoute ce que disent aussi les autres, c'est un travail collectif aussi. Et puis le troisième, eh bien, dans votre studio, ça a été la découverte du studio, la découverte de Radio Campus, très important. Et puis là, on rentre dans un univers, un milieu, pareil, c'était une découverte. Et puis toute cette table ronde avec ses 5-6 micros, et puis tous ensemble avec chacun un micro, ce qui n'était pas le cas au moment du travail, avec un seul micro et qu'un seul casque. Et là, il y avait une petite pression. Et puis dans un temps donné, il fallait pouvoir réussir à raconter son histoire, sachant que on ne pouvait pas répéter. Donc toute cette expérience participe aussi de l'atelier. C'est pas que le texte, c'est tout ce qui se passe avant que le texte existe, avant qu'il soit diffusé.
Voilà, avant ce qu'on pourrait appeler presque une représentation, en tout cas radiophonique.
Oui, oui.
D'accord.
Oui.
On va parler un petit peu de l'auteur.
Oui.
Donc tu as choisi pour ces ateliers un auteur qui est Georges Amado.
Oui.
On va le dire en français.
Oui.
Qui est cet auteur ? Pourquoi cet auteur ?
Alors, l'auteur a été choisi assez radicalement parce que c'est un auteur assez connu. Moi, je cherchais un auteur brésilien. J'avais très peu de connaissances d'auteurs, poètes, auteurs de chansons. J'ai demandé à une femme brésilienne de me transmettre des noms d'auteurs ou même de la poésie. De la poésie traduite en français, à partir de laquelle j'aurais pu être inspirée pour l'atelier. Et en fait, je suis revenue sur cette histoire de poésie parce que pour cette expérience-ci, la poésie, c'est vraiment particulier. Bon, là, on a le texte de Victor Hugo, mais le texte m'a plu d'emblée. C'est vrai que quand je l'ai lu, il m'a plu d'emblée. Sinon, j'avais lu des textes écrits par Gaetano Veloso, donc de la traduction de chansons. Je trouvais que c'était assez compliqué de transmettre sans... En fait, il chante tellement bien que c'était un peu crapouche de le dire en français, comme ça passait pas. Donc du coup, je me suis orientée vers un romancier et j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas en fait Georges Amado, donc c'est aussi pour moi une découverte. Orienté brésilien, pourquoi le thème, la thématique aussi en lien, comme tous les ateliers, je l'ai fait en lien avec l'actualité du service culturel, proposé par le service culturel. Donc ça c'est ma partie perso. Je trouve que ça a du lien, enfin créer du lien, l'atelier, par rapport à ce qui se passe sur Rennes et ce qui se passe notamment au service culturel. Et donc voilà, Georges Amado, eh bien, j'ai découvert son écriture et je l'ai trouvé très agréable à lire. En fait, d'emblée, quand je me suis emparée de son écriture, tout de suite, évidemment, je l'ai lu à voix haute. Et puis, je l'ai trouvé pas facile. Et c'est là que c'est aussi la raison de l'orientation de l'atelier, c'est que la respiration de l'auteur n'est pas la même que la mienne, déjà, et n'était pas celle nécessaire pour qu'elle soit vivante et intéressante, dite. Et donc, pour s'en emparer, ben je me suis rendu compte, hein, en fait. Hein, parce que moi, je dis essentiellement des textes qui ont été écrits pour être dits. Et là, je me suis emparée, mais volontairement, j'aime bien la difficulté, de textes qui n'ont pas été destinés à être dits. Alors là, du coup, c'est une langue, bon, c'est une traduction, hein. Bon, j'en ai pris une, je n'ai pas cherché plusieurs traductions, je ne sais même pas si Georges Amado a été traduit par plusieurs auteurs, je ne sais pas. Mais celle que j'ai choisie, je l'ai trouvée plutôt agréable et agréable à dire. Donc là, c'était une porte ouverte et voilà, une découverte pour tout le monde, parce que personne ne connaissait non plus ce roman en particulier. Donc voilà, voilà l'origine du choix et de la découverte et du choix. Voilà comment ça s'est passé.
Merci, Rosane Fournier.
Ben, merci bien. Ce que je pourrais ajouter, c'est que je tiens à remercier Amélie Théel et puis Estelle Faure, qui sont toutes les deux avec une équipe très dynamique, les muscles et les têtes pensantes du service culturel, et qui sont très généreuses dans leurs propositions et qui, grâce à qui l'atelier a pu se mettre en place.
Je rappelle, tu es comédienne et metteur en scène pour la compagnie de théâtre KF Association. Et nous allons écouter tout de suite les lectures justement de ces ateliers à voix haute du service culturel de l'Université Rennes 2.
Extrait de Teresa Batista de Jorge Amado, publié aux éditions Stock. Il sourit et Teresa répond à son sourire. Il s'approche et la prend dans ses bras, son corps contre son corps. La main de Daniel descend vers la culotte, mais avant de retirer l'étoffe fleurie, il sent du bout des doigts la cicatrice. Il se penche pour voir la marque d'une blessure ancienne et au centre un trou comme si on l'avait percé avec un clou. « Qu'est-ce que c'est, chérie ? Pourquoi veut-il tant savoir ? Pourquoi troubler avec des questions le temps unique de cette courte nuit qui, peut-être, ne se répétera jamais ? C'était la pointe de la boucle de sa ceinture, un jour de correction. Il te battait beaucoup, avec la lanière ? Il me bat encore. Mais pourquoi veut-il savoir ? Pourquoi s'éloigne-t-il ? Cesse-t-il de toucher son corps et la contemple avec un air d'ange perplexe ? De quoi s'étonne-t-il ? Peut-être il ne la croit pas. Mais l'ange du tableau de l'autre chambre, de la maison du domaine, a assisté à tout, lui, à la lanière, et offert à m'y donner. Oui, il me bat encore.
Teresa s'immobilise, juste à temps pour voir la main ouverte du grand escogriffe s'abattre pour la seconde fois sur la figure de la fille, et pour entendre sa voix nasillarde répéter des mots si souvent entendus en des temps lointains. Tu apprendras à me respecter, chienne. La voix était autre, mais la phrase était identique, et aussi le bruit de la main de l'homme sur le visage de la femme. Instantanément, Teresa Batista se dégage des bras du poète et marche sur le couple.
Un homme qui frappe une femme n'est pas un homme, c'est un lâche.
Elle est devant l'individu, elle est devant l'échalas, elle lève la tête et l'avertit.
Et les lâches, je ne les frappe pas. Je leur crache à la figure.
Le crache à part. Entraînée dans son enfance à jouer aux brigands et à la guerre avec de turbulents gamins, Teresa Batista a le tir sûr. Mais cette fois, étant donné la taille de l'individu, elle manque son but. L'œil chassu est veule. Le crachat se loge sur le menton. Fille de putain,
Si vous êtes un homme, venez me battre, moi.
C'est ce que je vais faire, espèce de pute.
Eh bien, allez-y.
Cela dit, elle n'attend pas. Elle lui envoie un coup de pied bien placé en visant les testicules. Mais de nouveau, elle rate sa cible. Le type avait des jambes qui n'en finissaient pas.
Serré, joue contre joue, tournoyait un couple. L'homme, un commis voyageur à en juger par sa mise, veste sport dernier cri, cravate voyante, sans oublier les cheveux luisants de brillantine et sa façon de distiller les fadaises et des serments d'amour à l'oreille d'une fille rondelette et naïve, à l'attrayante silhouette. Bien qu'elle parût goûter les platitudes du commis voyageur et admirer son élégance et son raffinement, les yeux de la demoiselle dénotaient une tension et regardaient avec inquiétude vers la porte d'entrée. Tout à coup, elle dit « Céliborio, Dieu me garde !» Elle s'arrache au bras de son partenaire, veut fuir, ne trouve pas d'issue et se met à pleurer comme une sotte. Le dénommé Liborio, dont l'entrée dans la salle en compagnie de trois amis avait provoqué la panique de la fille, était un individu long, tout de noir vêtu, comme s'il était en grand deuil. Des poches sous les yeux, le cheveu ras, les épaules voûtées. En matière de beauté, tout le contraire de l'autre, il semblait sortir d'un enterrement. Il se dirige vers la piste de danse. S'arrête devant la fille. On entend sa voix enrouée. « C'est comme ça, petite pute, que tu es allée soigner ta mère à Propria ?» Liborio ne fait pas de scandale, pour l'amour de Dieu. Déjà échaudée par d'autres avant elle, et pour ne pas salir encore un peu plus sa fiche professionnelle au laboratoire pharmaceutique pour lequel il voyage à Bahia, au Sergipe et en Alagoas, excellent vendeur, capable, entreprenant et sérieux, mais porté sur les femmes, les bagarres dans les cabarets et les maisons closes, a déjà été arrêté. Le commis voyageur s'éloigne, en douce, tandis que ses compagnons et collègues se lèvent dans l'intention de lui prêter main forte, si besoin est.
Il n'y eut pas de première ce soir-là. Comme on le voit, du moins pas de première de la reine Bahiane du Samba. Mais ce n'en fut pas moins mémorable et inoubliable. Le chirurgien dentiste Jamil Najjar, l'homme du Paris des Vins Cruzeiros, ne voulut rien toucher pour la dent en or, qu'il plaça avec un soin extrême dans la partie supérieure, sur le côté gauche, de la bouche de Teresa Batista, où le point de fer avait fondu la lèvre. S'il avait demandé à être payé, ah, ce n'aurait pas été en argent.
O rei da brincadeira,
Ei, José.
O rei da confusão,
Ei, João.
Um trabalhava na feira,
Ei, José.
Outro na construção.
Ei,
ce Daniel des Rombières, ce Daniel des belles dames, ce gigolo des filles, il lui était parfois arrivé de tomber sur des femmes mariées, certaines depuis bien des années, mères de famille, et pourtant vierges de toute sensation de plaisir, uniquement possédées et engrossée. Ces femmes frustrées, à leur première rencontre avec un amant, se répandaient en lamentations, en remords, en pleurs sur leurs péchés.
« Ah, mon pauvre mari ! Je suis une folle, une misérable, une malheureuse, qu'est-ce que je fais ? Ah, mon honneur de femme mariée !»
Dan était un professionnel compétent dans son métier, un consolateur de première. Il savait s'y prendre pour sécher les larmes. Ces victimes de la rigidité morale de leur vertueux conjoint, il excellait à leur apprendre tous les degrés du plaisir. Elles apprenaient rapidement, émerveillées, reconnaissantes, insatiables et absoutes de toute faute, purifiées du péché, exemptes de remords, avec plus de raison qu'il n'en fallait pour l'adultère. Comment traiter un mari qui, par préjugé masculin ou par excès de respect, considère son épouse comme un instrument, une chose, un corps inerte, un tas de chair, en plantant sur son noble front une paire de cornes, bien voyantes, épanouies dans le plaisir des garçonnières.
O rei da brincadeira,
Ei, José.
O rei da confusão,
Ei, João.
Um trabalhava na feira,
Ei, José.
Outro na construção.
Ei, João.
Daniel lève les mains pour atteindre les seins, tandis que sa bouche insistante va de la cicatrice au nombril, où sa langue pénètre fine, pointe de caresse. Des seins, les mains glissent le long du buste, vers la taille, palpe la courbe des hanches, la rondeur de la croupe, les cuisses et les jambes. Sur les pieds, le cuivre acquiert une patine vert-noir de bronze. Une nouvelle fois, les mains de Daniel montent pour prendre celle de Teresa et la faire s'agenouiller. Ils restent l'un devant l'autre, pressés l'un contre l'autre. La bouche de la fillette entr'ouverte, suppliante. Ils se couchent dans le baiser. Leurs jambes s'entrelacent, les seins de pierre palpitent contre la forêt de velours. La douceur des cuisses serrées entre les muscles durs du garçon. La main de Dan pénètre dans la culotte. Atteint le noir jardin, où repose, endormie, la rose d'or. Là, dans le mystère caché, le cuivre se fait or. Ah, mon amour, répète Teresa à mi-voix, n'osant pas encore le répéter. Tout.
Poème de Victor Hugo.
Précile, aux arbres semés d'or.
J'aime votre patrie au ciel toujours pur, paradis qui se berce entre les flots d'azur, où le soleil brûlant comme un phare féerique couvre de ses rayons le sol de l'Amérique. Vous êtes le printemps et moi je suis l'hiver. Je suis le soir tombant, vous le jour frais et clair. Et j'aime à regarder l'aurore s'épanouir. Oui, je sens de la force et de la joie me venir à vous voir. Vous croissez. L'Europe, le vieux monde, dans l'histoire a vécu la rapide seconde de sa vie. Vous serez l'Europe après-demain. Le moment est critique. Eh bien, prenez la main de l'avenir puissant qui vous attend. Alors, Dans ce vaste Brésil, aux arbres semés d'or, passeront le progrès, la force et la clarté. On voit sur votre front une aurore d'été.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não tá preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira, dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval, se acabarem com teu carnaval. Você merece, cerveja, samba, amanhã, seu Zé, seu Zé, seu Zé, se acabarem com teu carnaval, se acabarem. Cerveja, samba, amanhã, que maravilha.